7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans 12 minutes, eh bien, nous retrouverons Jean Messia pour son analyse. Mais tout de suite, la chronique de Yann Bali.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous recevons désormais Yann Bali. Alors Yann Bali, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de Chrétien Solidarité. Et alors aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un massacre dont nous commémorons le demi-siècle et qui a le malheur d'être assez méconnu.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Oui, tout à fait, il s'agit du massacre de Damour. Il y a eu lieu il y a 50 ans, en janvier 1976, dans la ville, les villages qui l'entouraient de Damour, ville chrétienne du Liban. Donc c'est un fait d'histoire qui a été très discrètement commémoré chez nous, pas du tout même, parce que je crois que Chrétienté Solidarité a été la seule à faire un communiqué à ce propos. Et par contre, c'est une page d'histoire importante pour l'histoire du Liban, c'est une page d'histoire importante pour l'histoire des chrétiens d'Orient, et c'est aussi une page d'histoire pleine d'enseignements pour nous, Français, de 2026. Pourquoi ? Il faut rappeler le contexte libanais en 1976, en remontant un peu dans le temps. Depuis l'indépendance de l'État d'Israël, un certain nombre des centaines de milliers d'ailleurs de réfugiés palestiniens se sont installés dans un certain nombre de pays de la région, la Jordanie, l'Égypte et aussi le Liban. Le Liban en plusieurs vagues, la dernière étant en 1970, quand le roi Hussein de Jordanie a décidé de mater les milices palestiniennes qui commençaient à prendre un peu leurs aises en Jordanie, et ça a déclenché une dernière vague d'émigration palestinienne en direction du Liban. Les Libanais, et notamment les Libanais chrétiens, ont dès le départ accueilli les réfugiés palestiniens comme des frères. Ils leur ont donné des terrains, notamment l'église maronite, pour qu'ils y construisent des habitations et les camps de réfugiés. On leur a ouvert les écoles. Toute la société libanaise s'est mobilisée pour de l'aide sociale, de l'aide médicale, y compris les partis chrétiens comme les phalanges libanaises de la famille Gemayel, qui ont fait un gros travail d'alphabétisation en direction des réfugiés palestiniens. Ils ont été accueillis à bras ouverts. Mais petit à petit, sous le prétexte de reprendre le combat contre Israël, les réfugiés palestiniens se sont constitués, un certain nombre de milices palestiniennes se sont installées au Liban et se sont armées et armées lourdement. Mais l'État libanais a fait une erreur monumentale en 1969, aux accords du Caire, en reconnaissant à la fois l'extraterritorialité des camps palestiniens, qui n'étaient pas des camps de réfugiés, uniquement des camps de réfugiés, c'était de véritables casernes. Et deuxièmement, c'est-à-dire qu'extraterritorialité, la police libanaise et l'armée libanaise ne pouvaient plus y entrer. Beaucoup d'enseignements pour nous, puisque c'est un peu le cas d'un certain nombre de cités, non plus de banlieues, mais de villes entières dans notre pays. Les accords du Caire reconnaissent aussi aux réfugiés palestiniens et aux milices palestiniennes le droit d'être armés lourdement. Donc ça, deuxième erreur de l'État libanais. Ce qui devait arriver arriva. Les Palestiniens veulent faire du Liban leur patrie de substitution et se comportent comme un État dans l'État au Liban, créant des contrôles policiers, arrêtant les gens, etc., etc. 10%, un expert militaire européen dit que 10% de leurs armes ont été utilisées contre Israël et 90% contre l'État libanais, contre les Libanais qui les avaient accueillis. Voilà le contexte qui précède Damour. La guerre, évidemment, est inévitable. Elle se déclenche le 13 avril 1975 entre les milices palestiniennes et leurs alliés du mouvement Li National, qui en fait représente tous les partis de la gauche libanaise, qui voient dans cette cause palestinienne la possibilité de faire avancer la cause révolutionnaire, d'hâter la destruction de l'État libanais et l'avènement de la révolution et du grand soir. Vous voyez que c'est aussi quelque chose qui nous rappelle l'alliance de l'islam et du gauchisme aujourd'hui en France. Et donc la guerre se déclenche entre ce camp qui se nomme lui-même islamo-progressiste Et le camp des souverainistes, en quelque sorte, composé essentiellement par les milices des partis chrétiens. La guerre en 1975, donc, est essentiellement urbaine. Elle se concentre à Beyrouth, notamment dans le quartier des hôtels. On appelle ça la bataille des hôtels, puisque ce sont les grandes tours des hôtels de Beyrouth qui servent en quelque sorte de fortin aux deux protagonistes de la guerre. On se tire dessus d'une rue à l'autre. C'est une guerre urbaine, c'est assez terrible. Et enfin, fin de 1975, le camp islamo-progressiste et les milices palestiniennes veulent absolument faire sauter le fameux verrou de Damour qui se situe au sud de Beyrouth. Disons que c'est un îlot chrétien, on appelle ça le littoral maronite au sud de Beyrouth. C'est une zone chrétienne qui en fait sépare les quartiers musulmans et tisans des islamo-progressistes de Beyrouth sud et de Beyrouth ouest, du sud du Liban, où il y a également un certain nombre de tisans de la cause palestinienne et du camp islamo-progressiste. Et donc c'est un intérêt stratégique, premièrement, la ville de Damour, mais pas seulement, puisque on veut aussi opérer, et ça, les chefs palestiniens, un certain nombre de chefs palestiniens l'ont reconnu après coup, opérer une opération ethnique pour évacuer les chrétiens de cette région. Et donc, l'assaut est lancé le 1er janvier 1976, d'abord par un encerclement et ensuite par une attaque et les milices islamo-progressistes investissent la ville de Damour et les villages environnants. Et là, à partir du 13 ou 14 janvier, des massacres commencent. Ce sont des massacres comme on les connaît dans les phénomènes révolutionnaires associés à l'islam. On a connu ça en Algérie, on a connu ça, Israël a connu ça le 7 octobre. Ce sont des massacres terribles. On massacre les familles, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Les femmes sont éventrées, on tue des enfants. Il y a entre 600 et 800 victimes. Cela dure environ une semaine, du 14 au 20-21 janvier. Un journaliste allemand qui couvrait la guerre du Liban pour le magazine Stern a rapporté qu'il était venu là pour faire des articles pour défendre la cause palestinienne et il est revenu pour faire des articles condamnant les exactions des Palestiniens quand il a vu ce qui s'était passé à Damour. Alors le massacre de Damour est parfaitement terrible et il a pour nous il y a pour nous trois enseignements à retirer de cette affaire de Damour. Premièrement, c'est le danger d'importer sur son sol des causes étrangères, et c'est ce qui s'est passé au Liban. Et c'était un des facteurs essentiels du déclenchement de la guerre du Liban et des malheurs qui en sont suivis pour le peuple et le pays libanais. Deuxièmement, c'est le caractère pernicieux de l'alliance entre les forces de gauche et l'islamisme. C'est ce qui s'est passé au Liban. Ils s'appelaient, eux, islamo-progressistes. Aujourd'hui, nous avons en France l'islamo-gauchisme dans nos facultés, dans tout un tas de rouages de la société. Vous parliez tout à l'heure avec votre invité précédent du risque qui pesait sur les élections municipales de voir des listes islamistes et islamo-gauchistes gagner des municipalités. Ben, nous y sommes. Et troisièmement, c'est le danger d'avoir face à tout cela un État faible. C'était le cas de l'État libanais, qui n'était que l'ombre de lui-même, qui n'était plus capable de faire régner l'ordre par sa police et par son armée, une armée qui était d'ailleurs infiltrée par un certain nombre d'éléments islamo-progressistes. L'affaire de Damour est très significative. Il y avait dans un village proche de Damour, Saadiat, pardon, qui était également encerclé. Le ministre de l'Intérieur en exercice, Camille Chamoun, ancien président de la République libanaise, il était là, encerclé, il accueillait les réfugiés, il a demandé à une intervention de l'armée libanaise pour désenclaver et faire échapper la population au massacre. Eh bien, le premier ministre libanais lui a dit non, sous l'influence de la Syrie d'Hafez el-Assad. Non, l'armée libanaise n'est pas intervenue, elle ne devait pas intervenir, parce que sinon ça aurait pu créer d'autres tensions par ailleurs au Liban. Vous voyez, il y avait à la fois les alter-ego de LFI, mais il y avait aussi l'alter-ego de Retailleau, un ministre de l'Intérieur impuissant, un État impuissant, et c'est une encore une leçon que nous devons retenir de cette affaire de Damour. Voilà pourquoi, avec Chrétienté Solidarité, nous avons voulu en parler. Voilà pourquoi je ferai une conférence mardi prochain, 17 février, au Centre Charlier, sur ce massacre de Damour, avec beaucoup de témoignages, d'iconographies, de vidéos. Voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de Chrétienté Solidarité à ce propos.
Et merci beaucoup pour cette chronique. Simplement, sur ce massacre méconnu, il nous reste encore 3 minutes, si vous le voulez bien. Est-ce que aujourd'hui encore, comment dire, les Libanais ont gardé dans leur mémoire justement ce massacre? Parce que effectivement. Pour tout vous dire, j'étais au Liban il y a quelques mois, c'est pas non plus le premier dont il me parlait.
Non, alors enfin, les Libanais, à l'occasion du 50e anniversaire, il y a eu des commémorations. Tous les gens qui ont connu l'époque, évidemment, quand vous leur parlez de la guerre et du début de la guerre, ils vous parlent évidemment du massacre d'Amour, puisque ça a été voilà, une opération, entre guillemets, exemplaire d'attaque contre les populations chrétiennes et contre la souveraineté libanaise. Après, dans les jeunes générations, vous savez, c'est un peu comme chez nous, hein, on est passé à autre chose. Mais chez ceux qui sont engagés en politique et engagés dans la défense de la souveraineté du Liban aujourd'hui, le massacre de Damour est connu. Et d'ailleurs, les conséquences du massacre de Damour, c'est-à-dire la liaison entre les quartiers sud de Beyrouth et le sud du Liban, plutôt pro-palestinien à l'époque et en majorité musulmane aujourd'hui, bah, aujourd'hui continue d'être une réalité puisque c'est toute la zone qui est tenue encore par le Hezbollah. C'était une des conséquences d'affaires de Damour, c'est qu'on a complètement éradiqué la population chrétienne de cette zone. Alors les chrétiens, certains sont revenus, à l'époque ils étaient très majoritaires, aujourd'hui ils sont très minoritaires.
Et oui, et effectivement, même cet abandon de cette zone au Hezbollah, on en sent encore les conséquences aujourd'hui, avec eh bien, toutes les tensions géopolitiques qui se retrouvent autour d'Israël, parce que le Hezbollah n'appartenant, enfin le sud Liban n'appartenant plus qu'au Hezbollah, dans le fond, c'est justement cette zone qui gêne Israël aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est exactement hein, ce que je disais tout à l'heure. C'est on a importé au Liban un conflit qui n'était pas le problème du peuple libanais et du Liban. Et le Liban paye aujourd'hui encore les conséquences. Donc prenons garde chez nous à ne pas importer les conflits d'ailleurs qui pourraient remettre en cause nos libertés et la souveraineté de l'État français.
Voilà, d'autant que, rappelons-le, il existe quand même encore, eh bien, enfin, en fait, toujours une importante diaspora libanaise chrétienne en France. Heureusement, nous n'avons pas encore de diaspora du Hezbollah, mais qui sait, si tout se passe mal, ça pourrait ne pas tarder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Yann Bali.
Merci à vous.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous recevons Jean Messia. Alors, nous allons parler de divers sujets aujourd'hui avec lui. D'abord, évidemment, on l'a pas évoqué en fait assez surprenamment ces dernières semaines, alors qu'il était avec nous, mais sa campagne à Évreux. Mais vous allez voir, il y a une bonne occasion d'en parler qui se profile. Nous allons aussi évoquer voilà l'attaque terroriste à Paris qui s'est déroulé avec devant un bus, plusieurs images sont sorties. Puis enfin, nous allons évoquer l'aide sociale à l'enfance. Décidément, c'est une matinale en bonne partie consacrée à l'enfance. Jean Messia, vous êtes avec nous ce matin. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement, mon cher Alexandre. Bonjour à vous, bonjour à Maëlys et aux auditeurs.
Alors, merci d'être de nouveau avec nous ce matin. Alors, je voudrais commencer cet entretien par eh bien, votre candidature à l'élection municipale de la ville d'Évreux. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai appris que vous étiez candidat dans la ville d'Évreux, j'ai été quelque peu surpris parce que je ne vous savais pas hébroïcien, donc je crois que c'est comme ça qu'on appelle
Exactement.
les habitants d'Évreux. Et effectivement, vous n'êtes pas, enfin, pardon, hein, mais vous n'êtes pas particulièrement connu pour votre ancrage local à Évreux.
Détrompez-vous, cher Alexandre. puisque évidemment, ce n'est pas des choses que j'affirme tous les jours, mais figurez-vous que j'ai commencé ma carrière administrative à Évreux, puisque j'étais directeur de cabinet du préfet de l'Eure, c'était en 2003, ça ne me rajeunit pas. Donc c'est un département et une ville que je connais très bien, puisque j'y ai également des attaches familiales depuis cette date et que je n'ai jamais vraiment cessé d'y venir très très régulièrement, en tout cas suffisamment régulièrement pour voir l'état de la ville se dégrader, la population en changer et l'insécurité exploser. Contrairement à ce que disent mes détracteurs, il n'y a aucun parachutage, d'abord parce que pour les raisons que je viens de vous donner, et ensuite mes détracteurs oublient que quand on se fait parachuter dans un endroit, c'est parce qu'on juge que c'est gagnable d'avance.
Là, on en est loin.
On ne se parachute pas dans une ville, si vous voulez, où le combat politique est rude et où il n'est pas donné d'avance de remporter la victoire. Tout cela est à balayer d'un revers de la main. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, en fait.
Est-ce que, déjà, première question, j'apprends, excusez-moi, mais que vous avez commencé votre carrière là-bas. À partir de ce moment-là, déjà, quelles connaissances vous avez tirées de votre expérience à la préfecture de l'Eure qui, aujourd'hui, vous servent quelque part dans votre campagne et dans votre connaissance d'Évreux?
Vous savez, le département de l'Eure est, comme on dit, un département rurbain, c'est-à-dire qu'il mélange les problématiques rurales, parce que ça reste un département très rural, mais comme il est assez proche de la région parisienne et du département des Yvelines en particulier, nous avons un effet collatéral de la gangrène de la violence dans les Yvelines. Mantes-la-Jolie n'est pas loin. D'ailleurs, quand vous prenez le train à Évreux, vous passez par ces territoires, par Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, etc. Donc, il y a une espèce d'exportation ou d'importation, selon le sens, d'importation de l'ensauvagement, de la violence, de la criminalité par rapport au département parisien connexe. Le général de Gaulle disait il n'est de politique que de géographie. Nous y sommes, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, ça pourrait être un atout. C'est-à-dire que Évreux est quand même une ville qui est d'abord chef-lieu de préfecture, vous le disiez, mais surtout, c'est une ville qui est à une heure de Paris, montre en main, et à une heure de la côte normande, à une heure et quart du port du Havre. Donc, c'est censé quand même être dans une position géographique stratégique, avec en plus des prix de l'immobilier défiant toute concurrence. Ça devrait être un endroit très attractif pour les entreprises, pour les centres d'affaires, etc. Or, malheureusement, les mairies qui se sont succédées, les maires qui se sont succédées, n'ont absolument rien fait. Le dernier maire, le maire actuel, ayant même supprimé la direction du développement économique de la ville, qui, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement des communes, la direction du développement économique est une direction dédiée aux prospects. C'est-à-dire elle est censée prospecter, démarcher des entreprises pour venir s'installer sur le territoire. Et en fait, si vous voulez, le problème, c'est que il n'y a pas de vision stratégique pour Évreux de la part de mes concurrents qui se contentent de slogans. Par exemple, on nous dit il faut revitaliser le centre-ville. C'est vrai, le centre-ville, comme beaucoup de centres-villes, hélas en France, mais plus de manière plus incompréhensible à Évreux, pour les raisons que je viens d'indiquer, le centre-ville se dépérit. Nous avons des magasins, même des magasins historiques. On a l'enseigne Jules dans la rue Chartrenne, qui sont un peu les Champs-Élysées d'Évreux, qui a été ouvert depuis 1989 et qui vient de fermer boutique le 10 janvier. Nous avons le dernier bar d'Évreux qui restait ouvert très tard le soir, qui permettait aux jeunes d'avoir des soirées festives et étudiantes, le Hastings, il vient également de fermer. Donc, effectivement, il y a un problème. Alors, on ne peut pas, si vous voulez, réciter des formules magiques et dire on va revitaliser le centre-ville. Il faut une réflexion globale. C'est-à-dire que le centre-ville, ce sont des boutiques. Les boutiques, c'est une offre. Une offre a besoin de demande. Voilà, c'est un marché. Il y a des enseignes, il faut qu'ils aient des clients. Les clients, ils viennent d'où? Ils viennent des entreprises qui viennent s'installer, qui viennent avec leur cadre, leur famille, leurs enfants, leur cadre supérieur, leur cadre moyen. Or, l'objectif du maire actuel depuis des années, ça a été d'augmenter considérablement le taux de logements sociaux de la ville. Vous savez que le taux de logements sociaux en France, c'est 25% selon la loi. Le maire l'a porté à 40%. Donc, si vous paupérisez la ville, vous tuez par voie de conséquence et de manière subséquente le centre-ville, puisque par définition, plus de pauvres, ce n'est pas plus de clients pour les commerces du centre-ville. Voilà. Rajoutez à cela le fait que si vous augmentez les logements sociaux, qu'il n'y a plus d'activité, Évreux devient au mieux une ville dortoir.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est à une heure de Paris, matin, les gens viennent habiter ici parce qu'évidemment, le prix au mètre carré n'a rien à voir avec les étiages parisiens, donc ils s'installent ici pour des raisons immobilières, mais ils ne font qu'y dormir, si vous voulez.
Oui, mais c'est déjà une réalité à Évreux, comme à Dreux, comme dans de nombreuses villes qui se situent à une heure ou moins de Paris. Mais alors, moi, ce qui me surprend quand même dans ce que vous décrivez et puis dans cette histoire, c'est que moi, je m'attendais, pour être tout à fait franc, à vous voir concourir face à un maire de gauche, parce que vous êtes toujours particulièrement direct on va dire sans détour quand il s'agit de s'attaquer à la gauche. Là, théoriquement, on a un maire qui est un ancien LR, donc Guy Lefranc.
C'est les pires.
Qui théoriquement est divers droite. Alors pourquoi ce sont les pires ?
Ce sont les pires parce que d'abord, il n'est ni divers ni droite, comme dirait l'autre. C'est un macroniste, parce que c'était un ancien collaborateur de Bruno Le Maire, excusez du peu,
oui.
Qui tourne dans la mouvance de Le Cornu, donc il n'a rien de droite, ce maire-là. C'est un macroniste pur sucre. D'ailleurs, il est rejoint par les socialistes, c'est vous dire. Et vous savez, dans l'Évangile, on dit « le chaud et le froid sera accepté, le tiède sera vomi ». Donc c'est un maire qui est un maire centriste, un maire macroniste, avec tous les travers, finalement, de Macron. C'est-à-dire que le maire actuel a fait d'Évreux la loupe grossissante de tous les affres et de tous les maux qui ont été administrés à Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron à la France. Voilà. Nous avons aujourd'hui à Évreux un cocktail de pauvreté, de délinquance galopante, de criminalité hors de contrôle et de désertification des zones commerciales. Donc, avec ça, si vous voulez, je ne vois pas comment la gauche aurait pu faire pire, d'une certaine façon. Donc il y a vraiment des sujets, si vous voulez. Par exemple, moi, ma priorité absolue, c'est la sécurité. La sécurité, parce que en faisant campagne, je n'ai pas rencontré un seul Ébroïcien ou une seule Ébroïcienne qui ne me parle d'une agression d'eux-mêmes ou de leurs proches. Donc, c'est quand même très grave. Le maire nous explique qu'il y a 109 caméras de vidéosurveillance dans une ville de 49 000 habitants. Moi, les caméras de surveillance, j'en ai vu aucune. Et quand je vous dis aucune, c'est aucune, et certainement pas dans les endroits stratégiques. Donc moi, j'ai un plan de déployer 500 caméras de vidéosurveillance avec intelligence artificielle reliées à un PC de sécurité connecté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour surveiller la voie publique et ce qui s'y déroule. Bon. Le maire, depuis maintenant, ça fait 12 ans, parce que là, le maire actuel rempile pour un troisième mandat. Donc, ça fait déjà 12 ans qu'il est à la gestion de la ville. 25 policiers municipaux, mon cher Alexandre, pour une ville de 50 000 habitants. Et le maire prétend avoir pour priorité la sécurité. C'est de la blague. Il faut au moins le double, sinon le quadruple de ses effectifs, sachant que nous avons un quartier chaud qui s'appelle la Madeleine, quartier chaud dont sont originaires nombre de complices de Samuel Paty, des assassins de Samuel Paty, qui est un territoire en dérive totale et qui, de surcroît, autrefois, ça a toujours été le cas, vous me direz, mais la nouveauté depuis plusieurs années, c'est qu'il métastase sur l'ensemble de la ville. Nous avons un quartier comme Netreville, qui était un quartier où il faisait bon vivre il y a encore une vingtaine d'années, ça devient une nouvelle Madeleine. Sans parler du débordement de cette violence sur le centre-ville d'Évreux.
Bien sûr.
Donc, ça ne peut plus durer. Je suis le candidat de la sécurité, du rétablissement de l'ordre, là où ma concurrente du Rassemblement national, elle se veut la candidate du Vivre Ensemble et du Rassemblement.
Alors, c'est assez étonnant comme propos que vous tenez, parce que bon, le Rassemblement National n'est pas non plus, malgré toutes les critiques que vous pouvez leur adresser, un parti qui est connu pour promouvoir le vivre ensemble non plus. Je rappelle simplement à des fins, vous pourrez répondre là-dessus dans un instant, mais je rappelle simplement à des fins informatives que le RN, justement, avait réalisé 8% des suffrages aux élections de 2020, et que, alors, aux européennes de 2024, ce qui est bien sûr très différent, mais c'est la dernière référence électorale qu'on ait sur la ville, eh bien le RN avec Jordan Bardella avait réalisé 27% et Marion Maréchal avait réalisé 4,4% dans cette ville. Donc c'est une ville qui est quand même, pour une grande ville, enfin pour une ville de taille moyenne, plutôt favorable au camp national. Est-ce que, c'est évidemment la question qui se pose, est-ce que vous n'êtes pas en train de le diviser, ce camp national, Jean Messiaen?
Je ne suis pas en train de le diviser parce que je n'ai pas en face de moi une candidate du camp national. Ah. C'est en face de moi une candidate, une ancienne LR, si vous voulez, qui est issue d'une famille de notables locaux qui a longtemps été LR, qui ont été même dans les bagages de Le Maire à un moment, et qui, voulant proroger en quelque sorte leur magistère politique local, ont décidé de mettre leur fille dans les pattes du RN pour qu'elle puisse continuer leur carrière politique ou leur filiation politique. Mais quand vous entendez, et j'ai diffusé une vidéo, puisqu'elle avait été interviewée par France 3, je vous enverrai la vidéo, on pourra peut-être la diffuser la semaine prochaine, elle dit clairement que c'est une candidate du Vivre Ensemble. C'est-à-dire que quand vous l'entendez parler, elle n'a rien à envier aux platitudes de Gabriel Attal et de Renaissance. Il n'y a rien dans son discours, rien dans son ADN politique qui fait référence au camp national, puisqu'elle ne parle même pas de sécurité, c'est vous dire. Elle me reproche à moi d'être un candidat sécuritaire et d'être un candidat qui n'est pas en faveur du vivre ensemble, vous vous rendez compte? Donc je crois pouvoir dire que je suis à Évreux le seul candidat de la droite, le seul candidat du camp national, puisque nous avons d'un côté le môle macroniste qui est une espèce de centrifugeuse et de toutes les rentes, si vous voulez, qui ont dirigé la ville jusqu'à l'arrivée du maire actuel et qui ont tendance à s'agripper désormais au maire actuel pour tenter de se perpétuer, sachant que, évidemment, le camp national progresse partout, vous l'avez rappelé, et Évreux n'y fait pas exception. Et malheureusement, le RN n'a pas investi une candidate nationale au sens où on l'entend, avec tout l'ADN qui est celui du camp national, c'est-à-dire de rétablissement de la sécurité, de lutte contre l'immigration et contre les méfaits de l'immigration, etc., etc. Donc à Évreux, effectivement, ceux qui veulent le rétablissement de la sécurité, le rétablissement de l'ordre, la lutte contre en rapport avec les services de l'État contre l'immigration clandestine, les OQTF, etc., il faut qu'ils votent Jean Messiaen, parce que s'ils votent la candidate du Rassemblement national, ils auront une candidate macroniste.
Et alors, Jean Messiaen, il y a une question qui se pose quand même, c'est que même avec tout l'optimisme dont vous pouvez parfois faire preuve, il semble tout de même particulièrement improbable que vous parveniez à emporter cette ville. Et c'est pour ça qu'une question se pose. Alors bien sûr, on se présente toujours pour gagner, mais une question se pose tout de même. Quelle est l'utilité de se présenter dans une ville où les chances de gagner sont pratiquement nulles ?
Là, je vous l'ai expliqué, c'est que d'abord, les chances de gagner ne sont pratiquement nulles parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et la foi déplace les montagnes.
Oui, voilà. Vous n'êtes pas Dieu, Jean Messiaen, vous êtes beaucoup de choses, mais...
Ah, mais c'est pas ce que je dis. Je rappelle une phrase de l'Évangile.
Oui, oui, oui.
Il dit que, bon, voilà, la foi déplace les montagnes, et la foi nationale n'y fait pas exception. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, ce que vous dites montre précisément que j'ai choisi Évreux parce que je tiens à cette ville, parce que je m'en sens véritablement citoyen, parce que je sens tout le potentiel qu'elle peut avoir et que j'ai vraiment à cœur et j'ai vraiment envie d'y faire souche politique en quelque sorte. Voilà, ma candidature n'est pas une candidature opportuniste, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas une candidature cynique qui viendrait ici chercher des prébendes politiques pour ensuite repartir je ne sais où. Voilà, j'habite à Évreux, je suis parti pour rester. Il y a l'élection municipale, mais derrière, il faut aussi regarder les choses en dynamique. Il y aura des élections départementales, régionales, sénatoriales, législatives. Voilà, ça s'appelle l'implantation dans un territoire. Alors, c'est vrai que l'implantation pour aucun parti ne s'est jamais faite par un coup de baguette magique. Mais je pense que j'ai quand même des chances non négligeables de gagner, encore une fois, parce que je suis le seul candidat du Rassemblement des nationaux et des patriotes en France, le Rassemblement national et les électeurs du Rassemblement national y compris.
Eh bien, Jean Messier, on va effectivement se faire une petite pause sur ce sujet. Peut-être qu'on le reprendra la semaine prochaine, effectivement, pour rentrer peut-être plus dans le détail de ce qu'il faut changer à Évreux, ce qui ne va pas, peut-être un peu plus aborder votre programme. Mais malheureusement, on a aussi d'autres sujets à traiter ce matin. Il y en a un autre qui est celui de l'aide sociale à l'enfance. Alors, sur ce sujet, nous, on en a beaucoup parlé à Ligne Droite, à Radio Courtoisie, mais on sent qu'il y a une forme de manquement particulièrement brutal de l'État envers les enfants dont il a la charge.
Oui, ce sujet, je m'y intéresse depuis un certain temps déjà, et je reprendrai les termes du rapport parlementaire qui a été publié début 2025 et qui parle de scandale d'État. C'est un vrai scandale d'État parce qu'il s'agit quand même des enfants de la France, il s'agit quand même des enfants tout court. Et lorsqu'on voit, si vous voulez, la multiplication des maltraitances, on parle de 15 000 jeunes filles confiées à l'aide sociale à l'enfance qui seraient prostituées. Quand on lit ça, si vous voulez, on en a presque les frissons. Je ne parle pas évidemment de toutes les maltraitances, parce qu'il manque à peu près 70 000 postes dans l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a un recours abusif à l'intérim sans aucune vérification des casiers judiciaires.
Alors, c'est en train d'arriver, mais enfin, on découvre que c'est en train d'arriver.
Nous avons aussi des placements abusifs dans des familles qui ne sont pas agréées. Il y a eu un scandale entre 2010 et 2017 qui a donné lieu à un procès où étaient impliquées 19 personnes qui avaient placé abusivement des milliers d'enfants dans des familles où elles ont été violentées, où elles ont été harcelées, où elles ont été frappées. En fait, si vous voulez, je ne comprends pas comment, quand il s'agit d'enfants, pour un système qui se prétend humaniste, dont l'humanisme veut dégouliner sur la terre entière, comment ne pas accorder par priorité ces élans et ces effusions humanistes à ses propres enfants d'abord. C'est quand même incroyable. Alors, au lieu de nous bassiner à longueur de journée avec les transitions de genre chez les moins de 15 ans et vouloir financer à coups de dizaines de milliers d'euros des dysphories de genre et je ne sais quelle lubie déviante de l'élite putride qui nous dirige, on ferait mieux de consacrer cet argent à le mettre pour donner un meilleur avenir à des enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans des familles où ils sont aimés et choyés. C'est quand même incroyable. On parle d'un manque de quelques centaines de millions d'euros, je crois, le chiffre que j'ai vu, c'est 300 millions, dont 117 millions pour des recrutements. Qu'est-ce que c'est 300 millions par rapport à un coût de l'immigration qui est évalué à 45 milliards ? Comment peut-on accorder à l'Ukraine un fonds de soutien de 800 millions quand les enfants, on parle d'enfants, mon cher Alexandre, on n'est pas en train de parler de SDF dans la rue qui ont choisi leur vie. On est en train de parler d'enfants qui n'ont, eux, rien choisi, qui ont juste eu le malheur de naître dans des familles avec des parents qui ne se sont pas occupés d'eux quand ils ne sont pas morts. Donc, ça devrait quand même, pour des soi-disant humanistes, ça devrait quand même être la priorité des priorités d'accorder un budget. On n'est pas en train de parler de dizaines de milliards d'euros. On est en train de parler de budget modique par rapport au budget qu'on déverse sur la Terre entière.
Mais comment vous expliquez à ce moment-là cette absence? Parce qu'effectivement, alors on sait que nos dirigeants sont dénués de bon sens. On sait qu'ils peuvent parfois être, même souvent, dans le camp de l'anti-France. Mais c'est presque de la cruauté que de les laisser effectivement dans de telles conditions. Enfin, on voit les scandales qui apparaissent de plus en plus régulièrement dans des foyers à Paris où il y a des enfants qui sont tondus, où il y a des humiliations, où il y a des violences internes à ces foyers qui se multiplient. Comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait même pas d'investissement là-dedans ?
Non, mais ce qui est complètement dingue, si vous voulez, c'est qu'on veut absolument vous soutirer des larmes sur les mineurs isolés étrangers à qui on consacre par mineur 50 000 euros. Alors, OK, mineurs isolés étrangers qui sont d'ailleurs bien souvent ni mineurs ni isolés, mais on nous dit on a signé des conventions. Ils sont étrangers, on a signé des conventions. On ne peut pas, vous comprenez, les pauvres, il faut qu'on accueille les enfants parce que la France a signé des conventions qui l'obligent à accueillir les enfants qui arrivent à ses frontières et les enfants qui sont dans les frontières, qui sont à l'intérieur des frontières. Les enfants qui naissent de parents français sur le territoire national. On en fait quoi ? Pourquoi devrait-on là encore accorder une priorité aux enfants étrangers, si tant est que ça soit des enfants, et complètement délaisser les enfants, les nôtres, nos enfants ?
Après, ce n'est pas d'ailleurs exclusivement des enfants français dans ces foyers d'aide sociale à l'enfance, mais c'est sûr que, en tout cas, ce sont des gens qui sont des enfants qui sont déjà là depuis plusieurs années et qui sont très 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 vraisemblablement nés sur le sol français ou pas loin. Mais oui, ce qui est certain, c'est que on met encore une fois, on ne comprend pas. Pourquoi il y a si peu d'investissements là-dedans ? Pourquoi il y a si peu de changements ? C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que l'État dépense de l'argent, mais est-ce que selon vous, c'est une question budgétaire presque, ou alors est-ce que c'est une question de négligence ou d'absence électorale ou de gain électoral ?
Je vais vous terrifier par ma réponse, mais je crains que ça soit la réponse à votre question c'est l'idéologie. Vous savez, l'idéologie qui nous dirige depuis 50 ans maintenant est à la fois une idéologie antinationale et une idéologie, marchande, empreinte d'une forme de rapacité. Regardez le. Enfin, évidemment, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais essayez d'avoir. Enfin, on réfléchit beaucoup depuis quelques jours et quelques semaines à l'affaire Epstein.
Oui.
Est-ce qu'elle vient dire finalement sur notre société ? Est-ce qu'elle vient dire sur le rapport d'un certain nombre de nos élites et en particulier aux enfants ? Suivez mon regard. Donc il y a déjà ça, c'est-à-dire qu'il y a des élites qui, ont fait sauter les frontières de la morale et de l'humanité, si vous voulez, en s'accordant. En regardant les enfants comme des adultes, y compris dans les aspects les plus sordides qui sont les leurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une société marchande. Voilà. L'aide sociale à l'enfance, c'est le parent pauvre, finalement, des budgets publics, parce que ça ne rapporte rien. Parce que là, pour le coup, c'est purement humain, c'est purement... c'est purement philanthropique, c'est purement, mais c'est nécessaire et indispensable. Mais ça, c'est pas leur sujet en fait. Je crains, si vous voulez, qu'il y ait un mélange de perversion idéologique et de rapacité financière, et qu'on donc les deux conjugués, eh bien, on retrouve le sort de ces millions, de ces centaines de milliers d'enfants. Si vous voulez, livrer à eux-mêmes, et pas seulement qu'à eux-mêmes d'ailleurs, livrer au pire.
Jean Messia, malheureusement, il ne nous reste qu'une minute trente, donc ce sera trop court, pour traiter le troisième sujet qu'on voulait. Simplement, tant qu'on est sur cette question de l'enfance et que vous avez évoqué l'affaire Epstein, peut-être en une minute, un mot sur Jack Lang et les dernières nouvelles.
Moi, je m'attendais, si vous voulez, à ce qu'après les révélations sur Jack Lang et sa fille, à ce que Jack Lang soit mis en examen. On apprend qu'il est mis sous protection. Donc c'est tout un symbole quand même de ce système qui veut protéger jusqu'au bout du bout du bout l'un de ses visages les plus hideux, l'un de ses visages les plus malsains qui a écumé l'histoire de la Ve République et notamment de la Ve République mitterrandienne et au-delà. Voilà, c'est un monde qui se termine et les vaches sacrées de ce monde sont en train de tomber. À demain la France.
À demain la France et à la semaine prochaine, Jean Messia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Alexandre. Merci à vous.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Pardon, mais c'est vraiment ce jingle à chaque fois me surprend. Bonjour Jean Vallier, merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétien d'Orient, je le rappelle. Alors, avant de commencer, vous vouliez revenir sur le rapport sur la Syrie de l'Agence européenne pour l'asile.
Oui Alexandre, la semaine dernière, Benjamin Blanchard, notre directeur général, évoquait ici même...
Brillamment,
naturellement, le rapport de l'Agence européenne pour l'asile. Il dénonçait le grand n'importe quoi de cette agence qui refuse de voir la persécution des chrétiens de Syrie et préfère s'intéresser aux persécutions subies par les personnes ayant des liens avec l'État islamique. Mmh. Il s'agissait, rappelons-le, de persécutions pour opinion politique, comme si avoir été proche de l'organisation État islamique n'était qu'une simple opinion politique. Eh bien depuis, et sans doute parce que des fonctionnaires de cette agence européenne vous écoutent tous les matins, cher Alexandre, ladite agence a publié une mise au point. Ah. Une mise au point qui n'est pas sans saveur. En effet, si l'agence en question reconnaît, là je cite le communiqué, que dans un passé récent, plusieurs incidents visant des symboles et des lieux de culte chrétiens ont eu lieu en Syrie, elle nuance immédiatement, depuis le changement de régime, de tels actes ne constitueraient pas une persécution que de manière exceptionnelle.
Tout va bien.
Tout va bien, les chrétiens de Syrie qui vivent sous la menace d'enlèvement, de demandes de rançon, de pillage et autres agressions quotidiennes apprécieront. Néanmoins, continue le communiqué, le document cite explicitement les chrétiens parmi les groupes religieux susceptibles d'avoir des besoins de protection internationale. Ouf, on a encore le droit d'aider les chrétiens de Syrie. Bref, passons, mais encore une fois, les instances de l'Union européenne ne sortent pas grandies de l'épisode.
Alors merci pour cette mise à jour, mais ce n'est pas de la Syrie dont vous vouliez parler.
Non, c'est l'Arménie, et plus précisément l'Artsakh, cette république arménienne séparatiste envahie par l'Azerbaïdjan en 2023, que j'aimerais évoquer avec vous ce matin. On se souvient en effet que lorsque les troupes azéries ont envahi l'Artsakh, après 9 mois de blocus, l'ensemble des 120 000 habitants de la petite république ont dû fuir en quelques heures. Une fuite contrainte, c'est le fameux choix entre la valise et le cercueil, sous la surveillance des soldats azéris. Et au passage, ces derniers avaient arrêté un certain nombre de responsables politiques et militaires de l'Artsakh pour les emmener en captivité à Bakou. Une captivité extrêmement difficile puisque même la Croix-Rouge n'a plus accès aux prisonniers depuis plusieurs mois. Ces prisonniers sont réapparus amaigris en janvier 2025, quand a commencé leur procès devant un tribunal militaire. Un simulacre de procès digne de ceux de Moscou. Et celui-ci s'est terminé en décembre 2025 et la semaine dernière, le tribunal a rendu son verdict. 5 accusés, l'ancien président, l'ancien chef de l'armée et son adjoint, l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre des Affaires étrangères ont été condamnés à la prison à perpétuité. Les deux présidents précédents de l'Artsakh ont été pour leur part condamnés à 20 ans de prison, tout simplement parce qu'il est interdit en Azerbaïdjan de condamner à la perpétuité une personne de plus de 65 ans. Ah. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 15 à 19 ans de prison. En parallèle de ce grand procès, se tenait celui de Ruben Vardanian, un milliardaire russo-arménien qui avait abandonné sa nationalité russe pour devenir ministre d'État, c'est-à-dire premier ministre de l'Artsakh. À l'heure où je vous parle, le tribunal, à ma connaissance, n'a pas encore rendu son verdict, mais il y a de fortes chances qu'il soit condamné à la réclusion à perpétuité. Avec panache, dans sa dernière déclaration devant ses juges, il a proclamé avec force le fait que l'Artsakh ait existé, existe et existera n'est pas une question juridique. C'est une simple vérité que personne ne peut simplement effacer. J'en suis profondément convaincu. Il a aussi qualifié le procès de farce. Quoi qu'il en soit, ces condamnations sévères, voulues directement par Bakou, montre que l'Azerbaïdjan souhaite en finir avec l'Artsakh arménien. Et d'ailleurs, depuis 2023, la région est azérisée à marche forcée.
Quelles ont été les réactions en Arménie et au-delà ?
Alors, commençons par la France. Le 3 février, donc juste avant le rendu du verdict, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une proposition de résolution en faveur de la libération des prisonniers arméniens. Le texte était porté par Laurent Wauquiez et Alexandra Martin, député LR, et il rappelle le soutien de notre pays aux populations arméniennes d'Artsakh, chassées de force de leur terre millénaire. Il rappelle également le droit au retour des populations arméniennes en Artsakh, dans des conditions garantissant leur sécurité, et il condamne enfin l'emprisonnement et le procès arbitraire des responsables politiques de la République d'Artsakh et demande leur libération immédiate et sans condition. En Arménie, le catholicos Garegin II, le chef de l'Église apostolique arménienne, a dénoncé, je le cite, des verdicts fabriqués, appelant à la libération des fils de l'Arménie détenus. En Arménie, toujours, le Premier ministre Nikol Pachinian, en pleine discussion de paix avec l'Azerbaïdjan, est resté extrêmement discret sur le sujet. Il ne faudrait pas fâcher l'interlocuteur azéri, avec lequel il entend créer la route Trump pour la paix et la prospérité sous l'autorité des États-Unis, route que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises ici. Les États-Unis, justement, parlons-en. En visite dans la région lundi et mardi dernier, le vice-président des États-Unis, Vance, a évoqué le sujet avec Ilham Aliyev, le président azéri. Il avait d'ailleurs promis à un journaliste arménien qui lui posait la question sur le tarmac de l'aéroport d'Erevan. Mais le même jour, il faisait retirer de son propre compte X le message et la photo le montrant déposant avec son épouse une gerbe au monument commémoratif du génocide arménien à Erevan. Pourquoi ? Tout simplement parce que le terme « génocide » était utilisé dans le tweet. Un terme rejeté et une réalité niée de façon catégorique par la Turquie voisine, alliée des États-Unis dans longtemps, rappelons-le, et par l'Azerbaïdjan. Il est vrai qu'après l'Arménie, J.D. Vance, nous l'avons dit, était en Azerbaïdjan pour signer un partenariat stratégique pour de la coopération économique, énergétique, technologique et militaire. Il s'est emballé, nous allons envoyer de nouveaux bateaux à l'Azerbaïdjan pour vous aider à protéger vos eaux territoriales, oubliant au passage la géographie, l'Azerbaïdjan n'ayant comme mer que la mer Caspienne, qui est une mer fermée. C'est une phase absolument nouvelle des relations entre les deux pays, s'est réjoui de son côté Ilham Aliyev, ajoutant, et là c'est important, l'Azerbaïdjan assure aujourd'hui la sécurité énergétique de 16 pays grâce à ses ressources en gaz naturel, dont 11 sont membres de l'OTAN et alliés des États-Unis. Vous comprenez que face à l'approvisionnement en gaz de 16 pays, les dirigeants emprisonnés de l'Artsakh ne pèsent pas bien lourd.
Eh bien, merci pour cette chronique toujours aussi réjouissante, mais en tout cas, il faut effectivement alerter là-dessus. Merci Jean Vallier.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et Gilles, aujourd'hui, vous êtes bien loin de nous, mais...
Bon, vous en êtes très très près par mon esprit, vous le savez, mon
oui,
cher
Alexandre. Oui, votre esprit qui d'ailleurs emplit cette pièce sans cesse. Alors, encore l'affaire Epstein, mais cette fois à la une des hebdomadaires qui sortent aujourd'hui, c'est de ça que vous nous parlez.
Oui. Voilà, pour en finir avec l'affaire Epstein, devrais-je dire, enfin, c'est une vraie déferlante, les magazines s'en donnent à cœur joie. Alors, prenez Marianne, qui fait sa une avec Jacques Lang en photo, l'hebdomadaire nous... a tout simplement mis en avant le pari d'Epstein avec plan de Paris à l'appui. Emmanuel Lévy a dressé en quelque sorte la carte du tendre du sieur Epstein. D'abord son pied-à-terre du 22 avenue Foch, situé au deuxième étage et d'une superficie de 700 mètres carrés, décoré par Alberto Pinto, qui était un de ses amis, estimé à plus de 10 millions d'euros, ce qu'il a soumis à l'ISF en France. Autre lieu, le musée d'Orsay, car le lundi 18 mars 2012, figurez-vous, que le gouvernement lui a ouvert le musée pour lui et Woody Allen. Il a pu le visiter avec tous les amis qu'il avait invités. Le bon marché, la grande épicerie, les relevés bancaires en témoignent, des emplettes régulières avec des chiffres incroyables dans ce temple du luxe alimentaire. À la rubrique Bonne Franquette, on trouve le restaurant La Milouie, où l'homme d'affaires y recevait ses relations dans un décor luxe discret, comme à l'appart dans le 8e arrondissement, une de ses tables régulières, qui est aujourd'hui fermée. Et dans cette géographie parisienne, il faut citer aussi le Jardin du Luxembourg, où il se promenait régulièrement avec son ami Olivier Collomb, ancien diplomate. Ajoutons aussi la place des Vosges, qui faisait partie de ses haltes parisiennes, à deux pas de ma Bourgogne et du domicile des Langues. Il trouvait un décor patrimonial propice aux rencontres discrètes, mêlant patrimoine et milieu fermé, ajoute le journaliste de Marianne.
Superbe. Et alors, parmi les rabatteurs qu'on appelle désormais le réseau Epstein, figure un certain Jean-Luc Brunel.
Oui, alors, c'est ce que révèle Marianne. Il s'agit d'un agent de mannequin 76 ans, accusé de viol, qu'on retrouve à la prison de la santé au bout du rouleau, écrit Laurent Valdinier, voisin de cellule en 2020 de Jean-Luc Lahaye, de l'ancien ministre Georges Tron et de l'ex-homme d'affaires Pierre Botton. Jean-Luc Brunel restait sous la menace de l'affaire Epstein aux États-Unis, où Ghislaine Maxwell, celle qu'il avait présentée à l'homme d'affaires dans les années 80, avait été placée en détention. Il voulait coûte que coûte éviter d'être extradé là-bas. Il savait bien que c'était un coup à finir ses derniers jours sous les barreaux. Glisse, un ancien co-détenu de la santé. Et depuis décembre 2014, Brunel, Epstein et d'autres, comme le prince Andrew, étaient accusés de viol par Virginia Giuffre de trafic sexuel. Epstein se vantait d'avoir couché avec 1000 filles fournies par Brunel, a toujours assuré leur accusatrice qui, en 2025, s'était suicidée. Bref, on n'en saura pas plus car, après une première tentative de suicide, Jean-Luc Brunel mit fin à ses jours en se pendant dans sa cellule numéro 13 le 19 février 2022. Mmh. Et malgré les conseils de ses condétenus, il n'a jamais rien balancé. Et pour être tout à fait complet, je vous invite à lire aussi le portrait édifiant de Ghislaine Maxwell, compagne et complice d'Epstein, dans Le Point, qui montre une photo d'elle en couverture avec lui et qui en a pris pour 20 ans en prison au Texas et qui voudrait monnayer sa parole contre une grâce présidentielle. On attend la réaction de Donald Trump.
Alors, ouvrons maintenant une page culture. Vous voulez évoquer un premier roman dont on parle dans Le Figaro.
Oui, je voudrais attirer votre attention sur un premier roman que j'ai lu et que Sébastien Lapacq relate dans le Figaro littéraire, qui met en avant cette semaine 8 nouveaux auteurs. Il s'agit de La Terre ou les illusions retrouvées aux éditions Barrival. Je pense que vous voyez la couverture sur votre écran si vous avez YouTube, signé du Nantais Bertrand Duguay, rédacteur en chef de la revue Mission et professeur de lettres à Paris. L'histoire se déroule dans la Bretagne des profondeurs. Conan Léonard Théodoric de Penthièvre jure que les ducs de Bretagne ont été ses ancêtres du XIIIe au XVe siècle et plus merveilleux encore qu'il descend d'Arthur Pendragon, roi de Bretagne. Et chargé d'enquêter sur le mystérieux aristocrate breton, écrit Lapacq, un jeune journaliste va se prendre de passion pour cette histoire farfelue. Ancien étudiant en histoire, Romain est ravi d'avoir l'occasion de plonger ainsi dans la matière de Bretagne. Et puis ce Conan Léonard Théodoric de Penthièvre est amusant avec ses amis bikers qui célèbrent la messe de Sainte-Anne dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour de Camaret-sur-Mer. Et Lapacq a raison de décrire ce roman très bien écrit, au style limpide comme vif et fringant. Il est permis de chercher, note-t-il, dans chacun des personnages, des reflets des héros de la légende fixée au XIIe siècle par Chrétien de Troyes. Un avatar d'Arthur, un double de la fée Morgane, une figure de Lancelot, dont l'épopée, Arthur incarne la justice équitable et la protection des plus faibles. Dans un monde dominé par la loi du plus fort, il fait prêter serment à des chevaliers de ne jamais faire de violence aux femmes et de secourir les opprimés, car le corps du roi est intimement lié à la terre au Moyen-Âge, et quand le roi est juste, le peuple mange à sa faim. Romain va découvrir que l'étrange Penthièvre se prêterait volontiers à cette mission salvatrice auprès des pauvres et du peuple de Bretagne. Voilà, c'est un livre plein de mélopées, de métaphores à lire dans les pages du Figaro littéraire. Et pour terminer, je voudrais vous citer aussi un article qui est paru quelques pages en avant dans le même Figaro, qui s'appelle « Les librairies sont-elles de gauche ?» Eugénie Boilet, qui est allée sur le terrain, laisse entendre clairement que oui. À quelques exceptions près, la journaliste rappelle les nombreuses attaques dont ont été victimes des auteurs de droite ou abordant des sujets classés à droite, à l'instar de Dora Mouto et Marguerite Stern, auteurs du livre Transmania. Ces dernières avaient fait l'objet d'une vague de haine en ligne jusqu'à l'interpellation de 64 individus, dont certains armés de matraques venus perturber une séance de dédicaces en octobre 2025. La librairie identitaire, la nouvelle librairie, qui se situait rue Médicis dans le 6e arrondissement et qui a aujourd'hui fermé ses portes, était régulièrement dégradée. Vitres brisées, devantures taguées par des militants dits antifascistes. Et ce ressentiment envers les livres politiques se retrouve d'ailleurs dans les chiffres, explique Lise Bouel, directrice de Fayard, maison d'édition appartenant à Vincent Bolloré, qui a notamment publié les ouvrages de Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy ou encore Marion Maréchal. La majeure partie des librairies indépendantes n'en veulent pas. L'éditrice évoque d'ailleurs les conséquences. Autour de 35% des ventes sur ce type d'ouvrage se font donc en ligne, notamment sur Amazon, soit beaucoup, beaucoup plus que dans les librairies indépendantes. Or, Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, c'est 100 000 ventes réelles dès la première semaine de mise en vente. La répartition en fonction des points de vente est beaucoup plus équilibrée pour les romans. Voilà, à lire dans Le Figaro.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles, pour cette revue de presse que vous menez toujours aussi bien. Et puis,
On se dit à lundi?
ben oui, on se dit à lundi, tout à fait, Gilles, faisons comme ça. Et chers auditeurs, si nous disons à Gilles à lundi, nous prenons congé de vous ici sur YouTube et sur X, pas tout à fait encore en FM, mais eh bien il faut que pour qu'on retrouve Gilles le lundi, pour que demain Richard anime sa matinale, pour qu'on mène à bien tous nos projets, que vous nous donniez un peu de sous.
Effectivement, mon cher Alexandre, merci de nous soutenir financièrement. Votre générosité est la garantie de notre indépendance. Alors je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis également à nous envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, on rappellera jamais assez l'importance de ces dons. Et tout de suite, eh bien, nous retrouvons Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, qui essaye de répondre à cette question. L'Union européenne peut-elle lutter contre l'immigration?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien de la matinale, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors, je rappelle pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes l'ancien patron de l'agence européenne Frontex. Vous êtes aussi, eh bien, député européen du Rassemblement national et vous êtes finalement un des monsieur frontières de ce parti. Alors, la question qu'on se posait, c'est est-ce que l'Union européenne peut lutter contre l'immigration? Et deux textes ont été adoptés hier qui vont plutôt dans le sens de cette démonstration. Alors, ce sont des textes qui permettent notamment de renvoyer des migrants vers des pays sûrs et de considérer à l'échelon européen des pays comme sûrs. Comment est-ce que ça s'est organisé déjà le vote de ces textes?
Je crois que la maîtrise des frontières et la maîtrise de l'immigration, notamment l'immigration illégale, est une question de volonté politique et de poids politique. Le Rassemblement national est arrivé largement en tête en France et nos alliés qui sont dans les autres pays de l'Union européenne, je dirais, sur les mêmes opinions que nous par rapport à l'immigration notamment, ont fait également d'excellents scores. Le résultat, c'est que nous sommes au Rassemblement national dans le premier groupe d'opposition au Parlement européen, le groupe des Patriotes pour l'Europe, et au total, si on additionne d'autres groupes qui sont, je dirais, qui partagent avec nous des positions eurosceptiques et hostiles à cette immigration, eh bien, nous avons à peu près un tiers du Parlement européen qui est prêt à voter spontanément des dispositions pour arrêter cette immigration illégale. Si vous ajoutez également le fait que la droite, je dirais classique, le centre-droit, je prends l'exemple des chrétiens démocrates en Allemagne, sont eux aussi sous pression de leurs électeurs, chacun dans son pays de l'Union européenne, nous arrivons à la possibilité au Parlement européen de faire une majorité alternative. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait en tant que coordinateur du groupe des Patriotes pour rallier, si vous voulez, une majorité, on va dire, en format union des droites au Parlement européen pour finalement commencer à détricoter ce pacte asile-migration contre lequel le Rassemblement national a voté. Et ça, c'était dans le mandat précédent, avant les élections européennes, parce que Mme von der Leyen et la Commission européenne précédente avaient voulu faire voter cela un peu en catimini avant les élections. Donc oui, Nous avons commencé à détricoter le pacte, mais il y a encore du travail.
Alors justement, c'est la question qui se pose un peu, c'est qu'on a entendu parler pendant plusieurs années du pacte des migrations, du plan de répartition des migrants, auquel je rappelle que je crois 6 pays européens ont réussi à échapper, mais il y a ce pacte des migrations, et en parallèle, eh bien, des textes qui sont votés et qui permettent pour le coup de restreindre théoriquement de manière efficace, s'ils sont appliqués en tout cas, l'immigration. Alors, le premier texte considère que eh bien, l'Union européenne peut renvoyer des migrants vers les pays, des pays qui seraient considérés comme sûrs. Et le second texte crée une base européenne commune de pays sûrs, et donc parmi lesquels on retrouve le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc, la Tunisie. Et donc, avec tous ces pays-là, eh bien, on pourra y renvoyer les migrants, et puis les demandeurs d'asile ne seront plus considérés officiellement, enfin directement, pardon, comme pouvant avoir droit à l'asile, c'est-à-dire que leur demande sera étudiée en amont. Comment est-ce que, déjà, pourquoi avoir fait voter ces textes alors même que le pacte des migrations va quand même s'appliquer en parallèle?
Alors, le premier texte qui porte donc sur ce qu'on appelle le concept de pays tiers sûr, comme vous l'avez dit, va permettre de refuser d'enregistrer des demandes d'asile dans les États de l'Union européenne et permettra de notifier à des migrants demandeurs d'asile qu'ils peuvent aller dans d'autres pays qui sont en dehors de l'Union européenne et qui ne présentent aucun danger pour eux, compte tenu de leur situation personnelle et compte tenu du gouvernement de ces pays hors de l'Union européenne. Concrètement, il y aura plusieurs cas de figure de pays qu'on appelle donc pays tiers sûrs. Il y aura tout d'abord la possibilité de renvoyer lorsqu'il y a un lien, on le dit le jargon bruxellois, de connexion, c'est-à-dire que la personne, par exemple, que nous allons renvoyer, parle la langue du pays non européen dans lequel nous la renvoyons, ou bien elle a une partie de sa famille qui est là-bas, ou bien elle a peut-être travaillé, vécu à un moment donné. Il y a un autre critère qui est celui du transit, c'est que la personne a considéré que ce pays non européen vers lequel nous voulons la renvoyer n'était pas un danger puisque cette personne a traversé lors de son périple vers l'Europe, a traversé ce pays. Donc, nous la renvoyons vers un pays de transit. Ça peut être tout simplement d'être passé par un des aéroports, même dans la zone de transit aéroportuaire. Et à ce moment-là, sans autre, forme de procédure, nous renvoyons cette personne vers le transit. Et puis, il y a la possibilité de négocier, de conclure des accords avec certains, avec des pays tiers hors de l'Union européenne qui accepteront soit de conclure avec l'Union européenne en tant que telle, soit, et nous avons vraiment insisté pour que ce soit aussi possible avec nos États membres, de manière à ce que des États de l'Union européenne, isolément ou en groupe, puissent conclure avec des pays non européens un accord pour renvoyer les demandeurs d'asile dans ce pays-là, avec pour nous évidemment l'objectif à terme d'avoir des centres de migrants et des centres de retour. C'est un petit peu le modèle que Mme Meloni en Italie a voulu établir avec l'Albanie. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, vous l'avez évoqué, c'est la liste des pays d'origine sûrs. Vous avez donné la liste, il y a l'Égypte, il y a le Kosovo, il y a le Bangladesh. Et d'autres encore. Et là, ça veut dire que quelqu'un qui vient de ces pays, qui nous prétendrait être en danger de persécution politique dans son pays, devrait apporter la preuve qu'en fait, il est en danger. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de présomption que des pays hors d'Europe étaient sûrs. Et là, la présomption générale, grâce à ce texte que nous avons voté il y a deux jours, la présomption est que quand vous venez de ces pays-là, l'Égypte, le Bangladesh, le Kosovo et d'autres, eh bien, vous êtes considéré comme n'étant pas en danger quand vous rentrez dans votre propre pays. Et ce qui est également très important, c'est que nous avons mis dans ces textes le fait que si un migrant veut demander l'asile et fait un recours contre la décision de le renvoyer hors de l'Union européenne, le recours ne sera pas suspensif. Ça veut dire que même s'ils font un recours avec des ONG, avec des avocats, ils devront partir. Ils n'auront pas le droit de rester. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit permettre de réduire le nombre de demandeurs d'asile qui sont inscrits dans l'Union européenne. Et donc, ça doit mécaniquement faire baisser le nombre de demandeurs d'asile qui entreront dans le mécanisme du pacte asile-migration et donc qui entreront dans cette redistribution obligatoire que nous combattons et qui pour le moment effectivement existe et s'appliquera à partir de juin 2026. Et donc nous allons ainsi, c'est ce que nous voulons faire, assécher, si vous voulez, le nombre de ces migrants qui vont entrer pour faire une demande d'asile et qui vont être redistribués obligatoirement entre les États.
Si je comprends bien, il y aura moins de répartition parce qu'il y aura moins... en tout cas, vous visez moins de répartition par moins d'immigration à la source. C'est ça que vous décrivez.
C'est exactement cela. Ce que nous allons faire, nous, en tant que Rassemblement national, c'est évidemment être extrêmement vigilants sur la bonne application de ces nouveaux textes européens que nous avons votés il y a deux jours. Nous entendons que le gouvernement français, d'ailleurs le gouvernement français est très isolé. Le gouvernement français, si vous voulez, à Bruxelles, il fait partie des rares gouvernements qui sont pour favoriser toujours plus d'immigration, toujours plus de migrants. Je dirais que les gouvernements de M. Macron sont plus proches du gouvernement socialiste et d'extrême-gauche d'Espagnol, de Pedro Sanchez, qui, eux, veulent régulariser un demi-million de clandestins.
Oui. Alors, mais c'est pardon, excusez-moi Fabrice Leggeri, mais ça, c'est un point qui est quand même essentiel et sur lequel nos auditeurs se posent beaucoup de questions. Ils disent, bah oui, mais en fait, le Rassemblement national propose de lutter contre l'immigration à l'échelle européenne. Donc, finalement, en faisant passer des textes qui sont, on n'en doute pas, efficaces, comme celui que vous venez de faire passer donc, il y a deux jours. Mais en parallèle, à quoi bon ces textes si l'Espagne, qui est dans l'espace Schengen, régularise unilatéralement un demi-million de clandestins, et si la Commission européenne, qui plus est, ne vous avantage pas particulièrement dans le vote de ces textes?
Alors, la Commission européenne, dans le vote de ces textes, elle a été contrainte, parce que le commissaire européen chargé des questions migratoires et de sécurité intérieure a changé, ce n'est plus... La gauchiste suédoise qui d'ailleurs avait fait en sorte que je quitte mes fonctions comme agence à la tête de l'agence de garde-frontières et de garde-côtes parce que moi je voulais garder les frontières contre l'immigration et qu'elle voulait faire entrer les migrants. Bon, le nouveau commissaire européen, Monsieur Brunner, est du centre droit, il est du PPE, donc lui il a proposé, il a entendu que les peuples européens ne veulent plus d'immigration, que la plupart des gouvernements, à l'exception du gouvernement français et du gouvernement espagnol, la plupart des gouvernements sont généralement pour un tour de vis par rapport à toute cette immigration, et il a proposé des textes qui, disons, nous permettaient ensuite au Parlement d'amender pour le rendre encore plus sévère. Et si vous voulez, moi, l'inquiétude que j'ai maintenant, c'est tant que Emmanuel Macron sera président de la République et que nous aurons le gouvernement actuel ou un autre gouvernement nommé par Emmanuel Macron et de cette minorité-majorité macroniste, eh bien, nous risquons d'avoir en France un refus d'appliquer ces textes. Et vous avez raison de dire que nous avons au sud l'Espagne avec un gouvernement socialiste et d'extrême-gauche qui régularise un demi-million de migrants clandestins. Et donc, face à cela, il faudra de la fermeté du gouvernement français pour surveiller efficacement la frontière franco-espagnole tant que nous n'aurons pas, du côté espagnol, un gouvernement raisonnable qui sera gouverné finalement plus à droite et je l'espère, avec nos alliés de Vox qui font partie du groupe du Rassemblement national à Bruxelles et Strasbourg et qui, eux, atteignent aujourd'hui près de 20% des voix. Donc, d'autres coalitions sont possibles aussi en Espagne. Et mon message, c'est de dire que les peuples d'Europe se sont réveillés. Les gouvernements européens sont tous sous pression dans chacune des capitales et Bruxelles et Strasbourg sont évidemment sous le regard vigilant, exigeant et sous le poids politique que nous représentons avec tous nos alliés.
Et alors, dernière question rapide en une minute, Fabrice Leggeri. Est-ce que, avec ces deux nouveaux textes qui ont été votés avant-hier, la France pourra externaliser donc le traitement du droit d'asile en dehors de ses frontières? Est-ce que ce sera possible de faire en sorte qu'on ne doive pas accueillir les migrants d'abord sur le sol français et ensuite évaluer si oui ou non ils ont droit à l'asile?
La situation paradoxale, c'est que ce sera possible en vertu du droit de l'Union européenne que nous venons de modifier au Parlement européen, mais les représentants du gouvernement français nous disent que la Constitution française actuellement ne le permet pas. Donc moi, je voudrais dire que dès que le Rassemblement national sera aux responsabilités en France, nous organiserons un référendum pour modifier la Constitution française afin de rapatrier dans les principes constitutionnels français le fait que c'est la France qui est maître de sa politique migratoire, et en particulier s'il y a des éléments qu'il faut modifier dans la Constitution française pour que nous puissions externaliser, comme vous dites, les demandes d'asile en dehors de la France et en dehors de l'Europe, eh bien, nous modifierons la Constitution sur ce point également. Donc le Rassemblement national, c'est la solution avec ses alliés, et le Rassemblement national, c'est la solution aujourd'hui à court terme à Bruxelles et Strasbourg, et demain en 2027 à Paris également.
À ce moment-là, dernier élément pour bien clarifier, en l'occurrence, ce que vous dites, c'est que là, le droit donc européen est devenu plus restrictif que le droit français en matière d'immigration, parce que les peuples d'Europe, finalement, se réveillent plus vite que la France elle-même.
Oui, parce que la France d'Emmanuel Macron est gouvernée contre la volonté des Français. Nous l'avons vu en 2024, nous le voyons chaque jour. Emmanuel Macron continue de procéder à des nominations, de faire une politique qui n'est pas celle à laquelle aspirent les Français. Les Français répondent dans des sondages à plus de 70% qu'il y a trop d'immigration en France, et particulièrement trop d'immigration illégale. 70%, c'est bien au-delà des scores qu'a fait le Rassemblement national aux élections européennes. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus qui est très largement partagé parmi tout le spectre, ou une très grande partie du spectre, si je mets à l'écart l'extrême gauche qui veut faire venir des migrants pour transformer la France et faire une France créolisée qui ne serait plus la France. Mais à part cela, 70% des Français veulent lutter contre l'immigration illégale. Le Rassemblement national le fera.
Eh bien, merci beaucoup Fabrice Leggeri d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin pour nous expliquer tout cela. Et puis on vous dit sans doute à bientôt si de tels textes aussi positifs passent à l'avenir. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Merci, chers auditeurs, merci d'avoir suivi la matinale Ligne Droite que nous diffusons tous les matins de 7h à 10h. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que celle de demain vous plaira aussi. Mais ce dont nous avons besoin avant tout, chers auditeurs, vous le savez, hein, mais vous ne le savez peut-être pas si vous nous rejoignez, c'est que nous avons vraiment besoin de vous, de vos dons.
De votre soutien financier, effectivement, Alexandre. Merci de nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, on ne rappellera jamais à quel point c'est important, et alors ces dons pourront servir également à financer les autres émissions de Radio Courtoisie, comme celle d'aujourd'hui, Arnaud.
Celle d'aujourd'hui, comme par exemple tout à l'heure à midi, en direct, le libre journal d'Aude de Kéros. Trois sujets pour cette émission. Tout d'abord, la modernité de la Belle Époque, un lieu de débat sur la vocation artistique, et puis le cercle Fra Angelico. À 17h, Sursum Corda, dirigé par l'abbé Mathieu Raffray, consacré cette semaine à l'onction des malades. À 17h30, en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Henno, une émission à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Et le sujet de ce Restons Courtois sera l'islam contre la modernité. À 19h30, en direct également, le libre journal des traditions, dirigé par l'abbé Alain Laurence. Le carême et la fête de Pâques dans le rite chaldéen. Eya Mater, le nouveau disque des petits chanteurs de Saint-Joseph. Et puis, nous parlerons également de la parution de Versailles, des origines à nos jours, aux éditions Perrin. Et puis enfin ce soir à 21h30, toujours en direct, le Libre Journal de la Souveraineté, émission dirigée par Michel Leblay. Un redressement de l'économie française est-il possible? Un constat historique, une situation présente, les axes d'un redressement. Voilà mon cher Alexandre.
Eh bien, plein de sujets absolument passionnants, effectivement. Et pour demain, eh bien, vous aurez la chance de me retrouver durant ma brillante chronique qui, je n'en doute pas, vous ulcérera plus d'un. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous et je vous dis à demain.
À demain.